Iowa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 29 juin 2022. Jean-Roger Billon à ce micro, bonsoir à tous. À la une de nos informations, l'OTAN invite officiellement la Suède et la Finlande à adhérer à l'Alliance et promet un soutien sans faille à l'Ukraine. Drame de Melilla, le gouvernement espagnol s'engage à collaborer avec les enquêtes. Au Sénégal, l'opposition renonce à ses manifestations et annonce qu'elle prendra part aux législatives. Avant le prochain sommet de la CEDEAO dimanche à Accra, le gouvernement malien a proposé hier un projet de calendrier électoral. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Eh bien, lors de leur sommet à Madrid, en Espagne, les dirigeants de l'OTAN ont lancé le processus d'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Alliance Atlantique. Ils ont réaffirmé leur soutien à Kiev face à Moscou dans la guerre en Ukraine et citent la Chine pour la première fois sur leur feuille de route stratégique. Nathalie Barge.
Dans une déclaration commune, les dirigeants de l'OTAN ont dit avoir décidé de signer les protocoles d'adhésion de la Suède et la Finlande, une mesure rendue possible après la levée du veto turc hier soir. Au cinquième mois de l'invasion russe en Ukraine, ils se sont engagés à renforcer leur soutien à Kiev. Un nouveau plan d'aide prévoit d'accélérer la livraison d'équipements militaires non létaux et d'améliorer la défense contre les cyberattaques. L'OTAN somme Moscou de fournir un accès humanitaire et de retirer ses troupes d'Ukraine. Les membres de l'Alliance Atlantique disent par ailleurs travailler pour permettre les exportations de céréales ukrainiennes, accusant la Russie d'exacerber la crise alimentaire. Ils ont jugé que la Chine représentait un défi pour les intérêts et la sécurité des pays de l'Alliance dans la nouvelle feuille de route baptisée Concept Stratégique qui n'avait pas été révisée depuis 2010 et qui évoque la Chine pour la première fois. Le document dit que la Chine emploie un large éventail d'outils politiques, économiques et militaires afin d'accroître son influence internationale tout en restant opaque sur sa stratégie, ses intentions et son renforcement militaire.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti aujourd'hui son homologue indonésien Joko Widodo en visite à Kiev, que sa participation au sommet du G20 en novembre dépendrait de la situation de la sécurité en Ukraine et de la composition des membres du sommet. Il n'a pas mentionné directement le président russe, Vladimir Poutine, mais la participation de ce dernier, invité par l'Indonésie, fait l'objet de controverses. Le premier ministre italien Mario Draghi affirme que cette invitation est exclue alors que le Kremlin maintient que l'invitation a été acceptée. Le président Joe Biden a souligné l'engagement inébranlable des États-Unis pour la défense à la fois du Japon et de la Corée du Sud lors d'une rencontre mercredi avec les dirigeants des deux pays, selon un communiqué de la Maison-Blanche. Avec les États-Unis, ils ont promis de renforcer leur coopération, et ce en particulier pour faire face à la menace qu'est la Corée du Nord avec ses armes de destruction massive illégales et ses programmes de missiles balistiques, selon le même communiqué. Le premier ministre espagnol Pedro Sanchez promet une collaboration totale de son gouvernement avec les enquêtes sur la mort de 23 migrants africains qui ont tenté vendredi de pénétrer dans l'enclave espagnole de Melilla à partir du Maroc. Les détails avec Claire Morin-Gibou.
« Je déplore la perte en vies humaines », a déclaré le chef du gouvernement espagnol, mettant de nouveau en avant le droit des deux enclaves, Ceuta et Melilla, à des frontières sûres. Pedro Sanchez est sur la sellette depuis les événements tragiques de vendredi et ses commentaires du lendemain, au cours desquels il avait apporté un soutien très appuyé aux forces de sécurité espagnoles et marocaines. De nombreuses images ont montré des actes de brutalité à l'égard des quelques 2000 migrants qui essayaient d'entrer par la force à Melilla. L'ONU a qualifié ces événements d'inacceptables et a condamné l'usage excessif de la force. Les Nations Unies ont ouvert 3 enquêtes sur les événements de Melilla, dont 2 en Espagne. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a promis une collaboration totale de son gouvernement pour ces enquêtes, tout en affirmant que les principaux responsables étaient les mafias qui se livrent au trafic d'êtres humains.
20 personnes ont été retrouvées mortes de soif en plein désert libyen, près de la frontière avec le Tchad, après une panne de leur véhicule sous une chaleur torride, ont indiqué ce mercredi les services de secours. Le service libyen de secours et d'urgence de la ville de Koufra a montré sur sa page Facebook une vidéo montrant les dépouilles en état de décomposition sur le sable près de leur pick-up.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À Dakar, la coalition d'opposition Yehuy Askanoui a renoncé à la manifestation qui était prévue aujourd'hui et qui a été interdite hier par le préfet de la capitale sénégalaise. Ousmane Sonko avait promis de braver l'interdiction, mais l'opposition renonce finalement et annonce même sa participation aux législatives du 31 juillet. Les détails avec notre correspondant à Dakar, Seydina Bagay.
À la place de la nation, la confrontation entre les forces de l'ordre et les manifestants n'a pas eu lieu parce que la coalition d'opposition Yehuy Askanoui a finalement décidé de reporter sa manifestation. Une annonce faite par Aïdom Bodj lors d'une conférence des leaders animée par les membres de cette coalition. La dame Aïdom Bodj a précisé que beaucoup de Sénégalais ont saisi la coalition dans ce contexte de préparation de la fête de Tabaski, qui est l'une des plus importantes dans le pays. La coalition d'opposition Yehuy Askanoui a donc décidé de sursoir à sa manifestation pour éviter de causer des dommages aux Sénégalais, notamment aux vendeurs de moutons qui sont très nombreux autour de la place de la Nation où était prévue la manifestation et qui ont des milliers de points à travers le pays. Au-delà de ce report, l'opposition à travers la coalition Yehuy Askanoui a tenu à préciser que ce n'est pas l'interdiction du préfet qui les a obligés à reporter cette manifestation. Pour rappel, le préfet de Dakar avait décidé d'interdire la manifestation hier à travers une note. Il a précisé qu'il y avait de graves menaces de troubles à l'ordre public, d'infiltration de la manifestation et surtout des appels relayés sur les réseaux sociaux à semer le trouble dans le pays, des choses qui ont motivé le préfet en plus de l'article 61 du code électoral qui interdit toute propagande durant cette période préélectorale. Et sur ce point-là, l'opposition est revenue sur le grand meeting qui a été organisé par le pouvoir ce week-end pour dire qu'il n'y avait pas réellement d'équilibre entre les différentes décisions. Seydina Abagé à Dakar pour VOA Afrique.
Direction le Mali, le ministère de l'administration territoriale a rencontré hier la classe politique pour proposer un calendrier électoral. Cette démarche à quelques jours du sommet des chefs d'État de la CEDEAO prévu le 3 juillet à Accra. Notre correspondant Mohamed Danioko nous en dit plus.
Ce chronogramme électoral fixe la date du référendum au mois de mars 2023, les élections locales au mois de juin 2023, les législatives à octobre et novembre de la même année et la présidentielle au mois de février 2024. Depuis la présentation de ce chronogramme hier par le ministère de l'Administration territoriale, lors de sa réunion avec le cadre de concertation nationale des partis politiques, plusieurs déclarations d'acteurs de la société civile et des médias ont été lues sur la toile approuvant ce calendrier. Cette proposition intervient quelques jours après la promulgation de la loi électorale et à moins d'une semaine du sommet des chefs d'État de la CEDEAO qui doit se tenir le 3 juillet à Accra. Ce sommet pourrait décider de la levée ou non des sanctions qui frappent le Mali depuis le 9 janvier 2022. Mohamed Danioko pour VOA Afrique, Bamako.
Le gouvernement du Bénin a mis en garde mercredi contre les tentatives de groupes armés terroristes de recruter de nouveaux membres au sein de la population, alors que le nord du pays est confronté à une multiplication d'attaques meurtrières. Il invite donc les Béninois à ne pas se faire prendre au piège des vendeurs d'illusions et à collaborer avec les forces de sécurité et de défense. L'armée béninoise est déployée dans la région septentrionale pour contenir les groupes djihadistes présents chez ses voisins nigériens et burkinabés qui y mènent des incursions et attaquent les forces de sécurité. L'émissaire de l'ONU en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, a mis en garde devant le Conseil de sécurité contre un embrasement qui pourrait devenir incontrôlable dans l'est du pays. Les activités en cours du M23 et des groupes armés dans l'est de la RDC menacent d'annuler les progrès acquis en matière de sécurité et de stabilité dans la région, a-t-elle notamment averti. Et puis le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, s'est inquiété aujourd'hui de l'escalade de la tension militaire entre l'Éthiopie Russie et le Soudan et a appelé les deux pays à s'abstenir de toute nouvelle opération militaire. Khartoum a accusé lundi l'armée éthiopienne d'avoir exécuté 7 soldats soudanais et un civil fait prisonnier dans la zone d'Al-Fashaga. Le gouvernement et l'armée éthiopienne accusent au contraire des soldats soudanais d'être entrés en territoire éthiopien, déclenchant un accrochage avec une milice locale qui a provoqué des pertes dans chaque camp. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Claire Morin-Jibou.
Au Sénégal, la haute autorité du WACF a organisé hier à Dakar un atelier avec le ministère de l'économie pour aider à développer les projets soutenus par ce type de financement et favoriser les initiatives publiques et privées. Le WACF est, en droit islamique, une donation faite à perpétuité par un particulier à une œuvre d'utilité publique ou à un ou plusieurs individus. La deuxième édition des Africa Investment Days a été lancée à Lomé. Ces journées auront lieu les 27 et 28 octobre pour inviter les acteurs en matière d'investissement à venir débattre de toutes les questions liées aux investissements, a déclaré à Financial Afrique Boris Tobel, promoteur de l'événement. Ici aux États-Unis, le produit intérieur brut a reculé de 1,6% au premier trimestre en raison d'une baisse de la consommation dans un contexte de forte inflation et de problèmes sur les chaînes d'approvisionnement. Il ne s'agit pour autant pas d'une récession puisqu'il faut au moins deux trimestres consécutifs de contraction du PIB.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Lourde défaite pour la Zambie à 4 jours de la CAN féminine 2022.
Oui, l'Ouganda a étrié 5-0 la Zambie lors d'un match amical hier au Grand Stade de Marrakech au Maroc. Les Copper Queens zambiennes sont logées dans le groupe B avec le Cameroun, la Tunisie et le Togo. Quant à l'Ouganda, il fait partie de la poule A avec le Maroc, le Burkina Faso et le Sénégal. Le tournoi aura lieu du 2 au 23 juillet à Rabat et à Casablanca. Tenant du titre, le Nigeria est à la recherche d'un 10e trophée.
Thiago Silva espère que Neymar le rejoindra à Chelsea.
Le défenseur brésilien de Chelsea aimerait voir son super pote Neymar le rejoindre au club londonien. Si les rumeurs de départ de l'attaquant du Paris Saint-Germain devraient se concrétiser, qu'il vienne à Chelsea, s'il doit partir, il faut qu'il aille là-bas, a déclaré Thiago Silva. Neymar, 30 ans, a prolongé en mai 2021 son contrat avec le PSG jusqu'en 2025. Mais les rumeurs de départ ont pris de l'ampleur depuis des déclarations du président du club, Nasser El-Khelaifi. On ne veut plus du flashy, du bling-bling, c'est la fin des paillettes, a déclaré Al-Khelaifi, faisant allusion au style de vie souvent décrié de Neymar. Le Brésilien a réalisé en 2021-2022 sa saison la moins prolifique sur le plan individuel avec 13 buts et 8 passes décisives en 28 matchs, toutes compétitions confondues avec le PSG.
Basketball, Russell Westbrook va exercer son option aux Lakers.
Oui, l'arrière des Los Angeles Lakers qui sort d'une saison difficile a décidé d'exercer son option pour rester dans l'effectif de la franchise californienne la saison prochaine. À 33 ans, Russell Westbrook va entamer la cinquième et dernière année de son contrat de 5 ans à 206 millions de dollars. Le meilleur joueur NBA de la saison régulière en 2017 a joué pour 4 franchises différentes ces 4 dernières saisons, Oklahoma, Houston, Washington, puis les Lakers depuis août 2021. La saison passée, en 78 apparitions sous le maillot des Lakers, Westbrook a inscrit en moyenne 18,5 points par match, pris 7,4 rebonds et effectué 7,1 passes décisives. Les Lakers préparent la saison à venir avec un nouvel entraîneur, Darvin Ham, nommé début juin pour succéder à Frank Vogel.
Tennis, Serena Williams battue pour son retour en simple sur le circuit.
Oui, après un an sans jouer de tournoi en simple, la superstar américaine a manqué son retour sur le circuit. À 40 ans, Serena Williams a été battue par la Française Harmony Tan 7-5, 1-6, 7-6 au premier tour de Wimbledon. Septuple championne du majeur sur gazon, l'an dernier, Serena Williams avait quitté le tournoi londonien en cours de match, victime d'une blessure à la cuisse. Elle avait repris la compétition à la surprise générale la semaine dernière en double à Eastbourne, associée à la Tunisienne Ons Jabeur. Battue mais pas abattue, Serena Williams s'est déclarée motivée pour jouer l'US Open qui débute le 29 août. C'est dans ce tournoi américain que l'Américaine de 40 ans a gagné son premier titre du Grand Chelem en 1999.
Page des sports VO Afrique signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. La justice espagnole a annoncé l'ouverture d'une enquête sur la mort d'au moins 23 personnes lors de la tentative de 2000 migrants de franchir la haute clôture grillagée séparant l'enclave espagnole de Melilla de la ville frontalière marocaine de Nador. L'ONU a appelé les deux pays à garantir la tenue d'une enquête efficace et indépendante. Pour comprendre davantage ce qui s'est passé, Yakuba Ouedraogo a joint Baye Sako, journaliste sénégalais basé à Casablanca au Maroc.
Il y a eu 2000 migrants subsahariens qui avaient pris d'assaut la clôture métallique entre Melilla, qui sépare le Maroc et l'Espagne. Ça n'a pas été du goût des forces de l'ordre marocaines qui ont bien évidemment riposté. Ils leur ont empêché de franchir cette barrière. S'en sont suivis des affrontements, une bousculade qui a causé au moins 23 morts selon les statistiques officielles, mais une trentaine selon des ONG. Ce n'est pas une première. Il y a eu pas mal de tentatives par le passé. Ce sont en fait des migrants qui sont basés au nord du Maroc, qui résident dans des forêts, qui ont des campements de fortune, qui, à la moindre occasion, essaient de sauter cette barrière pour entrer en Espagne. La particularité de cette dernière tentative, c'est que c'est pour la première fois dans l'histoire de l'immigration irrégulière au Maroc qu'on constate ce nombre élevé de morts. Et ça a causé pas mal de réactions de part et d'autre.
Justement, comment les immigrés réagissent face à cela?
Officiellement, c'est les associations qui défendent les droits des subsahariens qui ont réagi. On peut citer le collectif des migrants subsahariens qui a évidemment dénoncé cette situation et déploré ce nombre de décès. Et à en croire son responsable, cela est dû à la pression exercée par les policiers marocains sur les ressortissants subsahariens. Ce sont des personnes qui ont quitté beaucoup de pays en Afrique subsaharienne, des Soudanais, des Sénégalais, des Guinéens, des Burkinabés, des Ghanéens, des Nigériens, etc., qui, une fois au Maroc, s'installent à Nador. Nador, c'est une ville située au nord du Maroc et qui n'est pas très loin de cette barrière. Et une fois on est à Nador, ils logent dans des forêts. Et d'après les ONG qui ont réagi, les policiers marocains accentuent la pression au niveau de ces migrants. Ils descendent régulièrement dans leurs camps, de brûler des camps au niveau des forêts, de déguerpisser des lieux. C'est cette pression atroce qui a poussé ces migrants à réagir de manière violente. Effectivement, sur les images qui circulent, on voit des migrants qui ont des armes blanches, qui ont des bâtons, qui ont des gourdins et qui étaient décidés à faire face.
Est-ce qu'il y a eu une réaction des autorités marocaines?
Le ministre des Affaires étrangères, au lendemain de l'événement, le samedi, il a réuni les ambassadeurs des pays d'Afrique subsaharienne basés à Rabat. Et durant cette rencontre, il leur a montré des vidéos pour un peu déconstruire les idées reçues, selon lui, par rapport à ce qui est véhiculé dans les médias. Et au sortir de cette rencontre avec ces diplomates, certains d'entre eux se sont exprimés et ont renouvelé leur solidarité envers le Maroc qui, selon eux, a mis en place une stratégie efficace pour lutter contre ce phénomène. Il y a une soixantaine de migrants qui ont été arrêtés selon la police marocaine. Une bonne partie sera présentée au procureur de Nador le 13 juillet. Ils auraient commis pas mal d'infractions, notamment des attaques contre les forces de l'ordre marocaines, la séquestration de certains des éléments, les brûlures au niveau des forêts et d'autres infractions qu'ils auraient commises.
Baye Sako, journaliste sénégalais basé à Casablanca au Maroc. En Côte d'Ivoire, le pont à péage de Grand Bassam au sud d'Abidjan, reliant le pays à Accra et Lagos, a été inauguré. Les tarifs fixés par le Fonds d'entretien routier, la structure étatique qui gère ce péage, vont de 1 000 à 3 500 francs CFA. Les Ivoiriens jugent ces coûts trop élevés, ce qui en rajoute à la situation économique compliquée. Le reportage de Delphine Boise, notre correspondante à Abidjan.
Le péage de Gambassam à la périphérie d'Abidjan qui s'ouvre vers la partie est du pays, l'autoroute, est composée de 16 couloirs dont 8 voies dans les deux sens. Pour emprunter ce péage, le tarif fixé varie de 1 000 francs à 3 500 francs CFA et tient compte de la catégorie du véhicule. Sur le montant minimum de 1 000 francs, le ministre Amédée Kouakou de l'équipement et de l'entretien routier explique que l'ancienne voie reliant Abidjan à Bassam reste toujours ouverte.
L'ancienne route qui va à Bassam a été entièrement réhabilitée. Des bus pour permettre donc à nos compatriotes qui habitent Bassam de regagner Abidjan à moindre coût. Donc, pour les transporteurs, c'est là-bas qu'il y a plus de villages. Donc, les passagers sont là-bas. Mais ceux qui doivent aller directement sur Abouasso, aller vers le Gada, pour eux, ils n'ont pas besoin de passer par Bassam. Donc, ils passent là. Automatiquement, ils arrivent de l'autre côté. C'est un tarif qui a été étudié.
Mais ces tarifs allant de 1 000 francs à 3 000 francs CFA suscitent des grincements de dents au niveau de la population.
On parle du Grand Abidjan. Ça fait partie de l'Abidjan. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est Abidjan de payer 1 000 francs pour traverser Abidjan. C'est pas normal.
Le prêtre, nous on fait 5 fois Abidjan-Bounoua. Maintenant, si on doit payer chaque passage 1 500, ça nous fait 15 000 francs à payer par jour. Je trouve que ça, c'est un peu trop.
Le prêtre est élevé. Quand nous, chez nous, on se disait que peut-être 500, on vient à 1 500 pour nous. C'est pas facile. Si le tas peut le voir ça, il n'y a qu'à voir ça. La distance, ça coûte pour 1 500.
Les transporteurs rencontrés à la gare de Bassam à Trècheville affirment qu'à cause de ce péage, les tarifs du transport sur les lignes du sud Komoué pourraient connaître une légère hausse.
Tout est dû. Là, on a qu'à essayer de diminuer même. Et si nous, on augmente le transport, ça agit encore sur la population et ça ne va pas les arranger aussi.
Voilà, les massas, les dîners et autres tout seront obligés d'augmenter.
Les transporteurs regroupés au sein de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire plaident pour une réduction du tarif. Touré Adama en est le président.
Nous lançons l'appel au président de la République de se saisir personnellement de ce dossier parce que nous ne pouvons pas payer 1 000 francs sur un axe où le transport nous coûte 500 francs. Donc nous demandons à M. le Président de la République que les tarifs soient conséquemment révisés. Et les autres tarifs sont exorbitants pour nous. On suggère un minimum de 50% de réduction de tous les tarifs qui sont fixés.
Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Les dirigeants de l'OTAN réunis aujourd'hui à Madrid en sommet ont lancé le processus d'adhésion de la Suède et de la Finlande. Le sommet a également révisé le concept stratégique qui considère la Russie comme la menace la plus importante et directe contre la sécurité de ses membres. À la suite de l'invasion de l'Ukraine, que change l'arrivée de la Suède et de la Finlande à l'alliance militaire? Éric Manirakiza a joué en France Jean Marcoux, chercheur à Sciences Po Grenoble.
Dans un secteur qui est assez stratégique, c'est dans le nord, puisque ces deux pays étaient jusqu'à présent neutres. Ce qui se prépare aussi, c'est un renforcement des moyens de défense de ces deux pays, puisque en même temps qu'ils ont annoncé leur adhésion, ou en tout cas leur volonté d'adhérer à l'OTAN, les deux pays ont aussi annoncé de fortes augmentations de leurs dépenses en matière de défense. Donc c'est quelque chose de corrélatif, je dirais, à la fois inscription de ces pays dans la défense stratégique du nord de l'Europe et renforcement des moyens de défense de ces pays.
Est-ce que ce n'est pas de mettre de l'huile sur le feu? On sait que la Russie s'opposait à ce que l'OTAN se rapproche de ses frontières.
Il s'agit moins d'une démarche de l'OTAN en tant que telle que d'une démarche de ces pays. Et c'est une démarche, oui, était tellement motivée par la politique de l'OTAN, mais qui est largement la conséquence du comportement de la Russie ces dernières années, qui n'a cessé de faire pression sur un certain nombre de territoires. Je veux parler en l'occurrence de l'Ukraine, on peut penser aussi au Caucase, et on peut penser aussi à d'anciens territoires de l'Union soviétique tels que les pays baltes ou à d'anciens pays membres du Pacte de Varsovie tels que les pays d'Europe centrale et orientale. Donc la Suède et la Finlande, qui étaient pourtant, qui avaient une sorte de neutralité légendaire, ont en fait remis en cause cette neutralité plutôt parce qu'elles sont inquiètes du comportement de la Russie.
L'OTAN a réviser son concept stratégique qui définit et nomme la Russie comme menace de l'OTAN. C'est un document qui n'avait pas été révisé depuis 2010. En 2010, la Russie était définie comme partenaire. Est-ce qu'on retourne aujourd'hui à l'ère soviétique?
On retourne peut-être pas tout à fait à l'ère soviétique et au même type de relation, parce que avec l'ère soviétique, on avait finalement aussi deux systèmes qui s'affrontaient au-delà même de la rivalité des puissances stratégiques. Aujourd'hui, cette rivalité entre systèmes est moins nette, encore que d'un côté, on a effectivement des démocraties libérales, de l'autre côté, ce qu'on appelle des régimes illibéraux qui souvent suivent non seulement la Russie, mais d'autres régimes qui ont tendance à suivre la Russie. Donc je crois qu'il y a effectivement à nouveau une forte polarisation du monde, mais qu'elle n'est pas exactement de même nature que la polarisation de la guerre froide.
C'était Jean-Marc Roux, chercheur à Sciences Po, Grenoble.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'enquête des législateurs sur l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole des États-Unis a repris mardi avec une audience surprise, mettant en lumière le témoignage d'une assistante de la Maison-Blanche sous le président Trump. Comme nous l'explique Catherine Gibson, correspondante au Congrès de la VOA, ce témoignage nous éclaire sur la tentative de l'ancien président de conserver le pouvoir. Le récit est de Ginny Kapumu-Villa.
Depuis plusieurs semaines, les auditions publiques des législateurs américains allèguent que l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole découle des efforts de l'ancien président Donald Trump pour saper la démocratie américaine. C'est ce que soutient le député démocrate Benny Thompson.
A multi-part pressure campaign.
Une campagne de pression en plusieurs volets menée par l'ancien président visant à inverser les résultats de la présidentielle de 2020 et à bloquer la passation du pouvoir. Nous avons montré que cet effort était basé sur un mensonge. Un mensonge selon lequel l'élection a été volée, entachée par une fraude généralisée. Le gros mensonge de Donald Trump.
Mais le témoignage de mardi a révélé certains des détails les plus importants à ce jour. Ce fut le cas lorsque Cassidy Hutchinson, qui travaillait à quelques pas du bureau ovale, a déclaré que Trump et ses conseillers les plus proches, y compris son patron, le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mark Meadows, étaient au courant du potentiel de violence. Elle a expliqué aux législateurs que Trump était pleinement conscient que ses partisans étaient armés et se dirigeaient vers le Capitole.
J'ai entendu le président dire quelque chose dans l'ordre de « Vous savez, je me fiche qu'ils aient des armes. Ils ne sont pas là pour me faire du mal. Enlevez ces foutus détecteurs de métaux, laissez entrer mon peuple et ils pourront marcher jusqu'au Capitole d'ici. »
Trump a qualifié l'enquête de la commission d'injuste. Pour leur part, ses alliés républicains à la Chambre des représentants ont critiqué le témoignage de Hutchinson, l'accusant de répéter des histoires de seconde main. Mais Hutchinson, qui risque des poursuites pénales si elle ment sous serment, a détaillé le désir de Trump de marcher sur le Capitole avec ses partisans, malgré les avertissements d'un avocat de la Maison-Blanche que c'était probablement illégal.
Monsieur Cipollone a dit quelque chose à l'effet de...
Monsieur Cipollone nous a interpellés de cette manière. S'il vous plaît, assurez-vous que nous ne monterons pas au Capitole, Cassidy. Restez en contact avec moi. Nous allons être accusés de tous les crimes imaginables si ce mouvement va jusqu'au bout.
Une dispute qui aurait culminé lorsque Trump aurait tenté de prendre le volant de la voiture présidentielle et même de s'en prendre à ses propres agents des services secrets. Hutchinson a précédemment témoigné que plusieurs membres républicains du Congrès avaient demandé une grâce présidentielle à Trump pour leur rôle dans la sape du processus électoral. Mardi, elle a révélé que l'avocat de Trump, Rudy Giuliani, et son patron Meadows avaient eux aussi demandé une telle grâce. La députée républicaine Liz Cheney s'adressant à Cassidy Hutchinson, ancienne assistante de la Maison-Blanche.
Le secrétaire général de la Maison-Blanche, Mark Meadows, a-t-il jamais indiqué qu'il était intéressé à recevoir une grâce présidentielle liée au 6 janvier?
Oui, madame. Monsieur Meadows a demandé cette grâce.
Le comité du 6 janvier peut recommander des chefs d'accusation criminels au ministère américain de la Justice. Les enquêteurs devraient reprendre les audiences publiques en juillet.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Georges-Léonard Sagno. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.